Parcours sur FM+. Bonjour et bienvenue dans notre magazine hebdomadaire consacré généralement à des conférences et grands débats. Débat, en voici un, en ce temps d'inquiétude concernant la nature. La nature est-elle naturelle? C'est un philosophe et sociologue qui aborde la question, Raphaël Liogier, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Raphaël Liogier était l'invité de la faculté de théologie protestante de Montpellier à l'occasion de sa séance de rentrée pour donner ce qu'on appelle traditionnellement la leçon d'ouverture. Et il proposait comme titre « Le sens de la nature, comment la nature est devenue surnaturelle », thème d'un ouvrage qu'il est en train de rédiger. Nous l'écoutons tout de suite.
Merci tout d'abord de cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Alors, pourquoi s'intéresser à la question de la nature? Alors, c'est tout le temps assez anecdotique, finalement, je crois. Je ne suis pas seul en mon genre. Mais on peut s'intéresser à de hautes questions philosophiques, sociales, anthropologiques, enfin, tout ce que vous voulez. Et souvent, ce sont des éléments biographiques qui font vous intéresser à un sujet. Et là, en l'occurrence, c'est des éléments même plus que biographiques, j'allais dire anecdotiques, en fait, que je me suis intéressé à cette question de la nature que j'avais traité très légèrement dans certains de mes livres, mais où je n'avais pas eu l'occasion de développer. J'avais même été frustré par l'éditeur qui me dit « Oh, vous en avez fait un chapitre complet, mais ça vous sort du sens du livre. Votre livre, ça finit par devenir un arbre avec trop de branches et on ne voit plus le tronc. » Donc stop. Je me suis dit, c'est pas grave, de ce tout petit chapitre, enfin de ce chapitre, je ferai un jour un livre. Et c'est arrivé, c'est ce que je suis en train de faire, de finir en ce moment. Alors, quelle est l'anecdote? L'anecdote, elle est simple, c'est d'entendre cette expression qui paraît évidente, qui paraît aller de soi et qui finalement est une expression illogique, paradoxale, voire absurde. Simple. L'expression de parc naturel. Si c'est un parc, ça ne peut pas être naturel. Donc pourquoi est-ce que ça veut bien vouloir dire parc naturel? Et je reviendrai parce que c'est devenu le centre pour moi de ma réflexion, cette idée de parc naturel. C'est-à-dire c'est vraiment une opposition complète. Ce qui fait sa nature de parc naturel, c'est le fait que ce soit un parc qui est exactement le contraire de ce qui est naturel. Et ça va plus loin parce que ensuite. Un jour, j'étais dans un dîner, dans un restaurant, et puis le serveur m'apporte gentiment du pain, et du pain blanc, normal. Et puis il arrive ensuite, attendez, avant de consommer ce pain, il appelle, là, je vous apporte maintenant le pain aux céréales. Allez, parce que le premier, il n'est pas aux céréales. Le blé, c'est pas, non, c'est... Ah, je me suis dit, ça va encore plus loin, c'est intéressant. Parce qu'après, je me suis informé sur ce que pouvait bien être ce pain aux céréales. Et je me suis rendu compte qu'il fallait le réindustrialiser, parce que c'est plus facile de fabriquer du pain blanc aujourd'hui. Donc il fallait le réindustrialiser, et puis lui rajouter, lui coller des petites céréales au-dessus, pour qu'il fasse plus naturel. Donc ça veut dire qu'il y avait un effort industriel de ce que j'appelle la renaturalisation de ce qui a l'air de ne pas être assez naturel, parce que finalement ça l'est trop, à la base. Donc il faut filtrer le naturel, il faut lui donner le surnaturaliser. Puis la troisième anecdote, là c'était aussi dans un dîner, et là c'était à New York, très classe, très américain, où on valorisait la culture française, c'est pour ça que j'avais été invité, donc c'était classe. Et il y avait une personne, une dame, qui apparemment est une célébrité à New York parce qu'elle elle travaille dans l'importation du vin français. Et alors à chaque plat, elle nous donnait un vin différent, dont elle faisait la promotion en allant au micro pour expliquer ce que c'était, parce que rien n'est jamais gratuit à New York. Et à un moment, elle dit quelque chose de fascinant. Elle dit, alors celui-là, c'est quand même le meilleur. Alors je vous le dis en anglais, cette expression, il dit, parce qu'il est « untouched by man ». Alors là, je me suis dit, c'est impressionnant. Parce que, alors évidemment, ça ne veut pas dire que ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ça veut dire quelque chose que ça ne veut pas dire au premier abord. Mais quelque chose qui est tellement ancré en nous que personne ne le remet en cause. C'est-à-dire que ce n'est même pas discutable. C'est non réflexif. pour parler comme Bourdieu, on dirait que c'est incorporé, c'est-à-dire que les gens le sentent directement sans avoir à y réfléchir. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est ce qu'on sent sans avoir à y réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler à cette question de la nature, en me posant la question, est-ce que ça a toujours été comme ça ? Alors, je ne vais pas discuter avec vous tout ce que je discute dans le livre, parce que j'ai essayé de simplifier en trois grands registres. Premier registre, c'est sur cette question ambiguë, la définition de la nature. Ça peut être déjà à la base. De quoi on parle quand on parle de cette notion de nature ? C'est pas si simple, ça a l'air d'être naturel, mais ça n'est pas tant que ça. Puis le deuxième point, c'est ce rapport lui aussi ambigu et très particulier de la modernité avec la nature. Qu'est-ce que la modernité fait avec la nature ? En prenant la modernité, vous verrez, j'ai une définition de la modernité, parce que si on parle de la modernité en art, ça commence bien avant, si on parle de la modernité en science, si on parle de la modernité aujourd'hui, quand on veut dire c'est seulement parce que c'est plus moderne, au sens où la machine à laver est plus sophistiquée, c'est pas exactement pareil que la modernité en tant que telle. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que fait la modernité pour transformer la vision que nous avons de la nature ? Une vision qui finit par s'incorporer, qui au départ est réfléchie, philosophiquement, enfin même théologiquement, une évolution dans ce travail intellectuel sur la nature. Et à la fin, on oublie même le travail intellectuel, c'est tellement incorporé que c'est pour ainsi dire, je pourrais dire, là, en employant le mot au double sens du mot, ça devient une métaphysique naturalisée. C'est-à-dire qui n'est plus remis en cause, qui est une sorte, c'est métaphysique, mais les gens ne le savent même pas. C'est-à-dire que les gens les plus athées vont valoriser cette idée de nature sans se rendre compte que c'est une métaphysique. Je vous donne un exemple. Tiens, en prenant les chantres de la philosophie, que j'appelle moi la philosophie néo-New Age, qui ne se sait pas New Age, par exemple Michel Onfray. Hein ? Ben, par exemple, sa valorisation du cosmos, d'une philosophie qui serait tellement puissante parce qu'elle serait naturelle, qu'elle ne serait pas normative, parce que... Et qui, lui, ne croit en rien, je ne crois en rien, parce que je suis tellement épicurien, je suis tellement, etc., etc., etc. Mais en fait, il finit par croire à la nature. Il finit par avoir une vision naturalisée de la nature, c'est-à-dire incorporée et non réfléchie, que je trouve très intéressante de ce point de vue-là, non pas en tant que philosophe, mais en tant qu'acteur social de base. Le troisième point que j'essaierai de développer, c'est la question de ce qu'on risque... Au-delà de ce qui s'est passé dans la modernité, la surnaturalisation, ce que j'appelle maintenant, je vais appeler devant vous la surnaturalisation de la nature, à laquelle je souscris, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que parce que je le critique, c'est-à-dire parce que je le passe au crible, je n'y souscris pas. En revanche, ce à quoi je ne souscris pas, c'est les dérives qui peuvent être contre-productives et remettre en cause ce que l'on croyait faire avec cette nouvelle idée de nature. Remettre en cause cette morale quelque part libératrice, voire libératoire, qu'on essayait de mettre en place, mais qui peut devenir hégémonique, autoritaire, totalitaire, selon certains registres. Et ça, c'est mon troisième point.
L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y a rien à regretter, c'était juste un morceau de bois.
Alors, sur la question de la définition. Donc, la définition de la nature, elle est extrêmement ambiguë. Elle a toujours été très ambiguë. Moi, j'ai repéré, en gros, trois grands registres qui peuvent se rejoindre. Le premier registre, ça serait la nature comme ce qui est brut, comme ce qui est donné directement, sans modification, sans ajouter quelque chose, sans incorporation supplémentaire, ce qui a donné l'adjectif assez naturel. Et là, c'est une nature... Alors, ça correspond assez bien à l'étymologie qui renvoie à la notion de naissance, d'une origine qui serait conforme à la naissance. Ce serait ça, naturel. Puis la deuxième définition, je ne vais pas m'attarder parce que je préfère discuter le reste, deuxième registre, parce qu'il y a des déclinaisons à l'intérieur de cette définition, c'est la nature comme environnement. La nature comme ce qui nous environne. Ah, c'est, la nature est belle dans cet endroit. L'Islande, ce que j'aime en Islande, c'est la nature. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui nous environne, quelque chose qui ne serait pas nous, pour le coup, et qui serait... qui nous environne, au sens qui nous entoure, dans lequel nous sommes. C'est la notion, après ça se décline, même si ce n'est pas exactement pareil, avec la notion d'écosystème. Donc on va parler du rapport entre l'homme et la nature. Puis la troisième définition, c'est la définition la plus métaphysique, c'est la nature comme essence. On va dire, bon, quelle est la nature de ce produit? Quelle est la nature de cet élément? Quelle est la nature de cette personne? Qui peut se décliner aussi, je vous disais, dans une multitude de choses. Ça peut être l'essence, mais au sens seulement de caractère. Il a une mauvaise nature, c'est-à-dire qu'il a mauvais caractère, ou il a une bonne nature, c'est quand même quelqu'un de sympathique. Oui. Alors c'est quand même assez lié aux autres définitions, en particulier à la première, puisqu'on met l'idée, ça serait conforme à un certain développement qui n'aurait pas été dénaturé, c'est-à-dire dénaturé depuis la naissance. On va dire, oh, le clonage, c'est pas naturel, dans ce sens-là, va-t-on dire. Même si, en fait, il y a dans l'environnement un certain nombre d'entités vivantes qui se reproduisent aussi par clonage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas naturel, c'est pas naturel à l'homme. Donc, ça suppose aussi une essentialisation de ce qu'est l'homme. Donc, ça suppose toute une série de choses, une série de conséquences. D'ailleurs, certains, et je pense au philosophe Clément Rosset, que certains d'entre vous connaissent, qui a écrit un livre, qui est un merveilleux livre, même si je ne suis pas d'accord avec ce livre, presque de A à Z, j'allais dire, mais en même temps, c'est un livre extrêmement bien fait, qui s'appelle L'Antinature. Alors lui, ce que nous dit Clément Rosset dans L'Antinature, finalement, c'est que la nature, c'est la métaphysique. C'est-à-dire qu'il assimile la notion, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est intéressant de voir comment il dit, il assimile la nature avec la métaphysique et il dit c'est les humains ont besoin de construire des systèmes de contraintes qui sont appuyés, qui s'appuient métaphysiquement. Il a une définition très large donc, de cette notion de nature. Bien, par exemple, dans le monde magique, entre guillemets, on suppose qu'il y a quelque chose de secret qui est derrière le voile, et qui serait la nature réelle des choses, donc des principes, et qui s'imposerait à nous. Et donc évidemment, ceux qui représentent ces principes, les magiciens ou les prêtres, si vous voulez, bien, ils ont un pouvoir particulier sur nous. Mais il dit, c'est pareil aussi, c'est dans la continuité même de l'idéalisme de Platon. Pour lui, Platon, c'est du naturalisme, ce qu'il appelle aussi le naturalisme, parce qu'il fait pareil, c'est un peu différent, mais enfin, il fait pareil quand même, Platon, il cherche quelque chose qui existe derrière, qui serait là, et ça serait ça, la nature des choses, qui serait, d'une manière générale, une façon de penser qu'il y a une nature des choses derrière ce que les choses donnent directement. Et de la même manière, il remet en cause, il y a une continuité entre les cultures qui font des cultures plutôt fondées sur la magie, ou Platon, qui pourtant voulait sortir de ce type de pensée, mais pour lui c'est pareil, et puis jusque même toute forme de théologie. C'est-à-dire que ce soit qu'on appelle ça Dieu ou la nature proprement dit, en fait, c'est chaque fois chercher la nature des choses, la nature de quelque chose. Donc il y a toujours une forme de naturalisme. Enfin, la théologie en tant que telle, quelles que soient les formes théologiques, quelles que soient les religions, sont des naturalismes pour lui. Mais il dit, l'essentiel de l'histoire de l'humanité, c'est une histoire du naturalisme. Donc il généralise, le naturalisme est partout, sauf à de rares exceptions, c'est pour ça qu'il écrit l'antinature, à de rares exceptions, et là ce sont des moments qui sont comme des joyaux de l'histoire intellectuelle, c'est ce qu'il appelle des moments d'artificialisme. Alors il voilà, moments d'artificialisme, il y a l'artificialisme, alors il en cite deux moments qui sont pour lui des moments extraordinaires, mais qui ne vont pas durer longtemps parce que c'est trop difficile d'être réaliste, c'est-à-dire d'être artificialiste dans son vocabulaire. Il y a deux moments, il y a le moment dans l'Antiquité, ça va être toutes ces philosophies, vous savez, qu'on a pu appeler les philosophies pratiques post-socratiques, mais en particulier l'épicurisme, voire même l'épicurisme tardif, comme celui de Lucrèce, qui est à l'origine du matérialisme. Alors là, c'est vraiment des gens... Alors ce qui est marrant, c'est que le livre principal de Lucrèce s'appelle quand même De Natura Rerum. Hein, c'est le royaume de la nature. Non, il dit non, mais c'est pas grave, ils s'intéressent pas à cette nature-là. Ce qu'ils veulent dire, c'est pas de la nature des choses, mais de la réalité telle qu'elle est. Hein. Et alors là, du coup, ils ne cherchent pas la nature. Ils disent que tout est donné devant, finalement. Ce n'est pas la peine d'aller chercher derrière, de faire la différence entre ce qui se donne en superficie et ce qui est entre le fond et la forme. Voilà. Et puis le deuxième moment, pour lui, c'est le XVIe siècle. Ça n'a pas duré trop longtemps, mais alors là, c'était génial. Je t'explique à quel point c'était bien. C'est entre, puisqu'on en a parlé, justement, Montaigne et Machiavel, excusez-moi. Puis tous ces penseurs du réalisme absolu que, a posteriori, on a pu considérer, certains, en tout cas Machiavel, comme étant à la limite du cynisme. Mais tous ces penseurs, d'ailleurs les cyniques aussi, justement, c'est pas pour rien, dans l'Antiquité, pour le coup. Hein, tous ces penseurs qui sont absolument réalistes, qui ne cherchent pas ce qu'il y a derrière, ils sont entièrement pragmatiques, du point de vue philosophique, ils n'ont pas de position métaphysique, parce qu'ils savent que la position métaphysique, finalement, c'est une pathologie, ça serait pathologique. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, sur cette extension, mais je la trouve quand même intéressante, parce que c'est un des seuls qui ose donner une définition négative de la nature, et au contraire, une définition positive de l'artificialisme, de ce qui est artificiel. Moi, je n'irai pas jusque-là, vous verrez sur la fin, parce que moi, ma position, c'est qu'on ne peut pas faire plus naturel que l'artificiel au niveau de l'humain. Et je vais expliquer pourquoi. C'est sans jeu de mots, je vais vraiment expliquer pourquoi on ne peut pas faire plus naturel que l'artificiel. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le soin de la nature, c'est juste la construction absolument artificielle à laquelle je souscris. Et du coup, il ne faut quand même pas se tromper pour savoir ce qu'on fait. Parce qu'il n'y a pas que ce qu'on pense, il y a aussi ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle la morale, la raison pratique. Les raisons qu'on donne à notre action. Moi, je crois qu'il a touché quelque chose d'intéressant, justement, Clément Rosset. Mais en même temps, je ne le crois pas si réaliste que ça. Déjà, je ne le crois pas réaliste sur la nature humaine. Puisqu'à mon sens, et je n'ai pas le temps de développer, mais on pourrait en discuter, pour moi, la nature humaine, on parlait de Ricoeur tout à l'heure, c'est une nature qui est essentiellement narrative. J'allais même dire, je dis souvent à mes étudiants au début du cours où je traite de ce sujet, je leur dis, l'homme, c'est avant tout un pilier de barre. C'est-à-dire, en gros, il raconte ce qu'il a fait pendant la journée, il raconte, et j'ai fait un tel, et je suis plus fort qu'un tel, etc., et truc, mais c'est un pilier de barre, c'est-à-dire, ça se retrouve même dans la culture collective. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a des musées archéologiques? Du point de vue d'un extraterrestre, ce que j'appelle le regard d'extraterrestre dans le livre, qui nous regarderait et qui dirait, pourquoi font-ils des musées où ils nous expliquent comment on se lavait et dans quoi, 5 siècles ou 6 siècles avant Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus ridicule, ça n'a aucun sens, à part raconter justement ce qu'on est, et donc créer une continuité, et donc créer ce que j'appelle le désir d'être, qui est la troisième strate, pas seulement le désir de survivre, pas seulement le désir de vivre, c'est-à-dire pas seulement le fait d'avoir plus de confort, mais de pouvoir raconter quelque chose, même avec ses habits. On ne s'habille pas seulement pour ne pas avoir froid, désir de survivre, désir de vivre. On s'habille pour dire quelque chose. On s'habille sans cesse pour dire quelque chose. Et donc, ce désir d'être, ce désir narratif, cette façon que nous avons de raconter quelque chose au-delà de notre composition physique, de ce qui nous compose, c'est-à-dire qu'on compose une pièce de théâtre ou on compose une musique à travers laquelle nous jouons notre vie, c'est-à-dire nous sommes comme au théâtre, nous sommes les acteurs d'une vie que nous jouons dans un scénario qui a été composé préalablement dans notre famille et qui construit une structure, la structure même de nos désirs incorporés. Ce n'est pas quelque chose auquel on réfléchit. C'est-à-dire, si on trouve ça beau, tel type de meuble beau et puis tel autre type de meuble de mauvais goût, c'est parce que dans notre famille, on a construit cette mise en scène qui fait que vraiment, on va trouver ça moche et on sera mal dans cet ameublement-là. Et évidemment, le scénario général existe aussi. Il y a un scénario plus général encore, plus profond, ce que certains appellent des métarécis, ce que moi j'appelle le mythe, dont on ne peut pas se passer, et qui est avant un mythe, avant d'être l'objet de construction théologique à partir de ce mythe. Par exemple, la Bible, c'est un mythe, mais pour moi c'est positif, puisque je distingue mythe et fiction. Le mythe, c'est le fait que de toute façon, nous n'avons pas accès à ce qu'on appelle le réel. La preuve, on met deux mots, on met le mot réel et le mot réalité, c'est-à-dire que la réalité, c'est seulement une construction de ce qu'on suppose être le réel, et que cette construction, avec le TE, à la fin, ça veut juste dire que ce que nous voyons, notre perception elle-même, au stade même de la perception, il y a de l'interprétation, ce que Husserl appelle la protension. Par exemple, je regarde une porte, j'imagine le couloir, alors que je ne vois pas le couloir, mais je suis obligé d'imaginer le couloir, et donc quelque part de le voir pour que ma perception soit cohérente, et au-delà de ça, je construis des narrations, jusqu'aux narrations religieuses, qui me permettent en fait de m'orienter, enfin il y a une fonction cognitive du religieux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la narration, elle est forcément métaphysique, parce qu'elle est là justement pour voir sans cesse au-delà, non pas un au-delà complètement fictif, un au-delà qui est plausible, c'est ça qu'on a oublié, qui doit forcément être plausible, pour pouvoir construire une représentation du monde qui nous permet de nous orienter efficacement. C'est pour ça que je distingue de la fiction, Parce que la fiction, c'est quand justement, par exemple, une narration qui peut être une narration religieuse est tellement éloignée que de ce qu'on, je pèse mes mots, de ce qu'on croit savoir à une période donnée, qu'il va y avoir un tel décalage que progressivement, le mythe va dégénérer en fiction. Si vous voulez, ça serait le christianisme de Maurras. C'est-à-dire qu'il dit, bon, ça devient un christianisme social, c'est-à-dire que personne n'y croit, sur le fond, métaphysiquement. Donc il ne sert plus à construire de la narration désirante, mais il ne sert qu'à dire, aujourd'hui on dirait, je suis contre le mariage pour tous. C'est-à-dire qu'en fait, je ne crois pas en Dieu, mais d'un autre côté, le christianisme est utile pour dire, pour prendre un certain nombre de positions morales auxquelles je ne crois pas vraiment. Oui. Et le religieux a subi un processus du passage du mythe à la fiction, du passage du mythe au conditionnel infantile, c'est-à-dire qu'on a fini par jouer de plus en plus, sans vraiment y croire, tandis que on se mettait à croire à autre chose sans même s'en rendre compte, parce que quand on croit vraiment à quelque chose, on ne s'en rend pas compte, et même le système théologique qu'on superpose à ce que l'on croit sans le savoir ne vient qu'après, ce que j'appelle la différence entre adhérence et adhésion. L'adhérence, c'est comme des chaussures qui adhèrent, j'aime bien la métaphore théâtrale, au sol mythique à travers lequel on joue notre rôle sans même s'en rendre compte, mais qui constitue tous les désirs, tous les jugements de goût que nous avons dans notre vie, et à travers lequel on peut avoir des adhésions qui peuvent être une adhésion intellectuelle, par exemple à une théologie donnée, où là on va réfléchir à un certain nombre de choses, et par un processus de boomerang, si vous voulez, on va regarder notre propre adhérence à partir de notre adhésion intellectuelle, à partir de notre adhésion, par exemple, théologique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'il n'y a pas l'adhérence qui est la base, l'adhésion, elle ne sert à rien. Parce que l'adhérence, on ne s'en rend pas compte, on est dessus. Ouais. L'adhésion, c'est là où on va, donc on regarde, mais il faut qu'on soit déjà sur la scène. Parce que si l'adhérence ne fonctionne pas, c'est ce que j'appelle une situation de dépression mythique. Et c'est au sens propre. Qu'est-ce que c'est qu'une dépression ? Une dépression dans l'aviation et une dépression psychologique, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quand ça tombe. Il n'y a plus suffisamment de pression mythique pour tenir notre jeu d'acteur. Et s'il n'y a plus suffisamment pour tenir notre jeu d'acteur, eh bien, on ne sait plus à quoi s'accrocher. Alors parfois, on s'accroche à des fictions relatives. Alors ça craque de tous les côtés, on descend l'escalier, on remonte, etc. On a du mal à jouer. Or, pour moi, l'idée de nature a progressivement remplacé un certain nombre de... a progressivement remplacé le décor mythique, mythologique, on pourrait même dire au sens de logos, la narration, mais intériorisée, à travers laquelle nous jouions notre vie. Sans qu'on s'en rende compte, au point que les religiosités elles-mêmes, pour résister à leur sortie de ce que j'appelle le champ de plausibilité, on finit par réintroduire la notion de nature et à la discuter comme quelque chose qui avait toujours existé à l'origine, y compris dans leur propre religion, et donc à réinterpréter leur texte par rapport à la nature. Par rapport à cette idée, qui a été le premier écologiste, la première religion? Et vous avez tous connu ça? Je suis sûr qu'il y a des cours, puisque j'ai remarqué que c'était pareil dans l'islam, c'est pareil dans l'un. Il y a des cours sur, en gros, qui cherchent à démontrer en quoi les protestants sont plus écologistes que les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est devenu le sol mythique à travers lequel, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, comment ?
On aimerait bien.
Mais je veux dire, même, par exemple, on parle beaucoup de l'islam en ce moment. L'islam, il y a un travail sur le fait de dire que, finalement, l'islam est une religion plus écologiste que les autres, et donc avec une réinterprétation des textes dans ce sens-là. Très forte sur ces questions. Je vous signale que même les pires des pires de Daesh, ils pensent qu'ils voulaient faire une cité parfaite ultra-écologiste. Et que leur critique de l'Occident, c'est aussi l'idée que les Occidentaux pourrissent tout, donc ils sont pas naturels. Et qu'eux, en fait, ils sont plus naturels, parce qu'ils respectent l'essence de ce qu'est un homme, une femme, ce qu'est le monde, etc. etc., etc. Oui. Mais oui, mais sauf que... Voilà. Je rappelle que les nazis sont parmi les premiers promoteurs de l'écologie. L'hygiénisme nazi, et que la structure du rapport qu'on a à la nature est aussi tiré, même chez ceux qui sont les plus libertaires aujourd'hui, en partie de ce qui s'était développé en Allemagne depuis un certain nombre de temps, à partir du romantisme allemand, 19e siècle, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur... En tout cas, voilà, mon idée, voilà pourquoi je suis à la fois d'accord et pas d'accord, je trouve intéressant la position de Clément Rosset, mais non, moi, je ne peux pas le suivre jusqu'au bout, parce que moi, quand je parle de nature, je parle de cette vision très spécifique qui se développe dans la modernité, c'est pour ça que maintenant je vais en parler dans la modernité, qui devient une vision positive, alors qu'elle n'était pas forcément positive jusque-là, en tout cas dans le rapport à l'environnement, par exemple. Hein. Et d'une part, et d'autre part, ce que je lui reproche, c'est de penser que l'être humain peut se passer de narration. Donc peut se passer de métaphysique, peut se passer du fait d'être un pilier de barre. C'est juste impossible. Parce que l'humain ne fonctionne que par la mise en scène. Enfin, pas que par la mise en scène, mais je veux dire, même sa technologie est une mise en scène de sa technologie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit technologie, pas seulement technique.
Au cœur de l'arbre, il y a le fruit. Au cœur du fruit, il y a la graine. Au cœur des graines, il y a la vie et la saison prochaine. Au cœur de l'homme, il y a l'amour. Au cœur de l'amour, il y a la peine, au cœur des peines.
Radio FM+, réseau associatif régional émettant sur Montpellier et Nîmes, le philosophe Raphaël Liogier s'interroge sur l'idée de nature. Il poursuit en cherchant à comprendre notre volonté de création, l'artificiel.
Modernité et nature. Modernité et nature. Alors, je veux bien parler, je veux parler de la nature justement au sens de cette espèce de positivité, vous l'avez compris, de ce qu'est devenue la nature aujourd'hui, au-delà de sa positivité, pas la positivité au sens du droit positif ou du positivisme justement, qui serait une vision empirique pure, d'ailleurs impossible, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais non, je veux dire... Cette nature qui est justement devenue autre chose qu'elle-même lorsque je parle de parc naturel. C'est-à-dire qui fait référence à un dépassement de la nature, de ce qui est vu directement, comme si c'était autre chose avec des propriétés quasi invisibles et positives, qui sont forcément bonnes. Donc je ne parle pas d'une nature qui pouvait déjà être valorisée, mais par exemple la nature bucolique, au sens bucolique du terme, qui était valorisé déjà dans l'Antiquité, il y a des poèmes bucoliques, rapport au bucolique. Je ne parle pas de ça. Je parle de la nature qui devient une instance morale positive. Quand je dis morale, c'est au sens aussi de non-physique, quand on dit physique et morale. Je ne parle pas non plus de la nature qui pouvait déjà être valorisée, quoique valorisée de façon quand même assez neutre, qu'on trouve dans l'Antiquité aussi, chez Aristote et autres, la nature comme élément, d'ailleurs qui peut se traduire la nature comme fusis, qui est un mot assez neutre, enfin qui relatif à ce qui est devant nous et qui est qui est décrit, qui peut entrer dans des catégories multiples et variées. Non, en fait, je parle de cette nature devenue positive et qui est liée à la positivité, enfin la corrélative d'un certain nombre de concepts qui apparaissent progressivement, par exemple la positivité paradoxale là aussi de l'infini. Parce que la représentation qu'on a de la nature, c'est quelque chose d'infini, ou du moins qu'on ne voudrait pas finir, voire finir. Et d'ailleurs, notre angoisse, c'est qu'elle puisse finir, maintenant. Alors qu'en droit, elle devrait être infinie. On a trop peur qu'en fait, elle ne le soit pas. Parce que quand on parlait de l'infini, qui était une manière de se représenter la nature, du moins la nature extérieure à la ville, à la cité, à la civilisation... Par exemple, dans l'Antiquité, donc on se représentait cet infini, c'était vraiment avec le privatif. Infini, c'est la peyron. Ça veut dire ce qui est non fini, ce qui est mal fini, et c'est le mal, ce qui n'est pas contrôlable. Et ce qui, si on fait très vite, dans la plupart des grandes traditions, y compris des traditions même antérieures à la tradition grecque et des traditions, même des sociétés dites tribales, on a un rapport à l'infini, qui est un rapport extrêmement négatif, qui est lié à l'angoisse, par exemple, l'angoisse de la maladie, ce qui n'est pas contrôlable. C'est-à-dire que tout peut arriver, mais tout peut arriver, surtout le pire. Quand aujourd'hui, on a une vision anachronique d'une nature qui serait bienfaisante et qui serait vue de façon bienfaisante par les sociétés dites premières, s'il n'y en a jamais eu, hein. Les sociétés dites premières, il faut se rappeler ce que dit Lévi-Strauss. Il faut se rappeler ce que dit Lévi-Strauss à propos des Indiens là où lorsqu'il était en Amérique du Sud, où il dit mais ils détestent la nature parce qu'ils ont peur de la nature. D'ailleurs, s'ils se scarifient, c'est pour dire qu'ils veulent pas être complètement dans la nature. Il y a même des tribus qui tuaient leurs propres enfants avec une politique qui était une politique antinataliste, antinaturaliste de gestion de ce que leur donnait la nature. Et le rapport à la magie, même dans le chamanisme, est un rapport angoissé et apeuré. C'est l'idée aussi de faire tomber les forces naturelles sur le voisin. C'est pas l'idée que c'est tellement bon, harmonieux, agréable et doux. C'est pas l'idée d'en prendre soin. Il y a un livre qui a été écrit par un anthropologue, je me souviens plus de son nom, j'en parle dans le livre, sur le mythe. Mais là, ça serait plutôt, à mon sens, au sens de fiction. Enfin, lui, il appelle ça le mythe de l'Indien écologiste, mais de l'Amérindien écologiste en Amérique du Nord. On a dit, ils sont géniaux, etc. Et lui, il a montré que les Apaches et d'autres sociétés, et ce n'était pas pour les critiquer en négatif, ils dégueulassaient la nature au maximum de ce qu'ils pouvaient. C'est d'ailleurs, leur nomadisme était un nomadisme utilitaire, c'est-à-dire qu'une fois que c'était vraiment complètement... qu'il n'y avait plus rien à prendre sur un lieu, hop, on allait mettre son camp ailleurs. Et ce n'est pas horrible. C'est pas du tout horrible. C'est parce que justement la nature est perçue comme infinie, ne pouvant jamais finir, donc on n'a pas à être économe avec ce qui est infini. Au contraire, on est angoissé par ce qui est infini, parce que tout peut arriver. Je vous dis le pire, la mort, la représentation de l'infini, c'est une représentation de la mort. Et d'ailleurs, l'animalité qui est infinie parce qu'elle n'est pas contrôlée, donc la sauvagerie, le barbare étant un quasi-sauvage, mais le barbare c'est l'autre que je ne contrôle pas tout à fait. C'est celui par qui le mal peut arriver, et ça peut même devenir l'incarnation du mal, jusqu'à l'animal qui est l'incarnation du mal. D'ailleurs, on lui met des longues oreilles, on lui met le mal, il peut prendre la figure du loup, du renard, du malin, et qui sont chaque fois des figures de l'animalité, c'est-à-dire des figures du non contrôlé, de l'infini, de ce qui manifeste la nature, c'est-à-dire de ce qui manifeste, en définitive, le mal, et ce qui nous fait peur. On peut se demander ce qui a pu se passer pour que ce rapport-là se renverse. Bien, ce qui s'est passé pour que ce rapport-là se renverse, je vais le dire de façon prosaïque et simplissime pour ne pas dépasser le temps, c'est la globalisation. Alors, mais quel rapport avec la globalisation ? Quel rapport avec la globalisation ? On oublie souvent que la globalisation, pour reprendre les termes de Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, spécialiste de l'esthétique, peut-être pas pour rien, c'est que la globalisation, avant d'être la circulation massive des biens et services, des personnes, des images, et c'est très intéressant de travailler sur ces choses-là, la globalisation, c'est le fait de réaliser au sens psychologique du terme que nous sommes sur un globe. Et réaliser que nous sommes sur un globe, un peu comme dans le dictateur de Charlie Chaplin qui fait tourner la boule, c'est-à-dire de voir c'est une boule, en fait. Et on réalise que c'est fini, que c'est un globe fini. Donc un globe qui, dans sa finitude représente une clôture même de notre perception. Et d'un seul coup, le fait de cartographier globalement ce globe, ça finit par nous faire ressentir ce que j'appelle moi une sorte de sentiment de claustrophobie globale. Ça devient de plus en plus petit. Pourtant, ça n'a pas changé de dimension, mais ça devient de plus en plus petit. Enfin, la dimension, c'est pareil que la temporalité, hein, comme dit Bergson. Hein, ce qui compte, c'est la durée vécue, c'est pas le temps de nos mondes, parce que le temps de nos mondes, c'est de l'espace, c'est l'aiguille qui parcourt de l'espace. Ce qui compte, c'est que ce film était tellement difficile à voir que j'ai eu l'impression que ça durait 5 heures. Alors que si ça se trouve, c'était le même temps. Eh bien, c'est pareil en ce qui concerne l'espace. L'espace se réduit lorsqu'on va plus vite dans notre représentation. Et il se réduit tellement qu'on finit par avoir peur de cette réduction. Parce que nous aussi, on se réduit en même temps avec cette réduction. Et donc, on finit par se dire, puisque le globe est fini, ça veut dire qu'il peut finir. Et d'un seul coup, on a un renversement du sens de la nature, de ce qu'est ce globe et de ce qu'est l'environnement, en se disant, mais s'il est fini, il peut finir. Donc il faut économiser ce que nous voyions jadis comme étant un danger infini. Et il y a un renversement du sens de la fragilité et du sens du danger. qui est en même temps corrélatif d'un côté de la globalisation. On voit que, de toute façon, on ne peut pas, comme les Indiens, se dire qu'on peut toujours aller vers un champ qui est plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, puisque plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, ça n'existe pas. Puisqu'on revient au même endroit. Donc la conscience du monde comme globe transforme le rapport que nous avons à l'environnement et donc à ce qu'on va appeler progressivement la nature et à l'idée qu'il faut en prendre soin, c'est-à-dire qu'il faut l'économiser, il faut une économie de la nature. Ce qui est corrélatif avec l'évolution des technologies qui non seulement rendent notre vision de la nature plus petite, sans parler de la solitude que nous ressentons, hein, dans le fait que, mais si ça se trouve, c'est le seul endroit dans l'univers où il y a de la nature au sens du bios, c'est-à-dire du vivant, pas seulement de la physis. Alors qu'on pensait au temps d'Aristote que physis, bios, bon. Non, là, ça veut dire peut-être que, non. Et on va finir par parler de nature, seulement, c'est un autre sens que j'ai pas compris. Au sens de vivant, pas seulement au sens de l'environnement, de ce qui est vivant. Cette conscience, elle n'est pas venue tout de suite, elle est venue même dans l'évolution de la physique et de l'astronomie, où progressivement, je vous renvoie à Alexandre Coiré et à d'autres sur l'idée qu'on a perçu que le monde était infini, mais nous, non, au milieu. Et que ce qui était infini, ce n'était pas le bios, que le bios n'est peut-être pas infini. Et jusqu'à des gens comme Jacques Monod, dans Le hasard et la nécessité, qui est un des livres les plus déprimants peut-être de l'histoire de l'humanité, et qui nous dit, c'est vrai qu'on a le sentiment que notre vie a un sens, parce qu'on fait des phrases, parce qu'on est humain, parce qu'on est vivant, et que le vivant a l'air de, et comme c'est un spécialiste du vivant, bon, on peut lui faire confiance à la base, qu'on se reproduit, donc c'est comme une sorte de signification, il y a un processus néganthropique, on dirait, c'est-à-dire on lutte contre le hasard, contre ce chaos qui nous menace en quelque sorte, mais ça, ça n'a pas vraiment de sens, cette nécessité vitale, parce qu'elle est encerclé par le hasard. Ça veut dire que quand ce sera fini, c'est comme si ça n'avait jamais existé, puisqu'il n'y aura pas de traces laissées pour ce qui viendra après, puisque ça ne viendra pas, puisque quand c'est venu, il n'y avait aucune chance pour que ça vienne, enfin aucune chance, sur des millions de millions de millions de millions de millions de millions de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de chances pour que ça advienne, ce qu'on appelle le vivant. Il se trouve que c'est advenu, bon d'accord, mais une fois que ça sera fini, ça adviendra plus, il ne faut pas rêver. Donc, puisqu'il y aura un espace incommensurable, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Vous savez, Kundera, au début de l'insoutenable légèreté de l'être, une fois, ce n'est rien. Puisque s'il n'y a pas deux fois, ça n'a pas de continuité. Et là, on voit qu'il pourrait y avoir qu'une fois, et donc c'est, ça n'a plus de sens. Donc, ce sens de la nature, cette confiance dans la nature, cette nécessité de prendre soin, de s'accrocher à ce qui a l'air d'avoir un sens, ça va engendrer toute une série de choses, hein, des mouvements philosophiques, comme le vitalisme, même Bergson, certains disent qu'il n'est pas vitaliste, moi je pense qu'il est quand même très influencé par le vitalisme, l'idée que même Teilhard de Chardin, le point oméga, il y a une visée qui est interne dans la concaténation elle-même, dans la coproduction du vivant, c'est le monde est concret, on parle même Hegel, qui était très vitaliste dans un sens, quand il parle du mouvement du concret. Hegel, contrairement à ce que croient beaucoup d'étudiants lorsqu'ils le lisent, se voulait absolument concret. Ah ben oui, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est la dialectique, c'est-à-dire ce qui s'oppose et qui se surmonte par des synthèses, et donc c'était vraiment le processus de concret. D'ailleurs, il parle d'universel concret. Ah, parfois, c'est un peu surprenant. Alors voilà, la nature va être progressivement valorisée, et il va y avoir la jonction qui va s'effectuer entre ces différentes définitions. La définition de la nature comme environnement qui va devenir la nature de notre nature, c'est-à-dire qu'on va trouver notre nature non plus directement dans la cité, dans nos règles qui en fait peuvent être des dévoiements de la nature. Donc on va remettre en cause l'artifice et l'artificialité. Mais notre vraie nature, c'est celle qu'on peut regarder dans les yeux de l'animal. Donc on va chercher l'animal qui est en nous. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. On va chercher l'indigène qui est en nous. Donc l'industrie va devenir négative. Tout ce qui est en rapport avec l'industrie va devenir une valeur, en fait, une contre-valeur. En même temps qu'on va protéger les loups, on va penser que les loups, c'est le bien, et plus le bien que nous. Mais ça va devenir aussi une valeur morale. Et on va essayer de s'amender de notre, d'une sorte de... Comment dire, on va essayer de... C'est une forme de rédemption par rapport à notre culpabilité. On va retrouver ça d'une multitude de manières. Comment retrouver l'infini dans la nature alors qu'on voit bien que cette nature pourrait finir ? Bien, on va survaloriser, parce que c'est l'ensemble du paradigme qui change, l'ensemble de la mythologie, ça veut dire que ça va changer même en science, même dans ceux, chez ceux qui croient être les plus rationnels. Par exemple, en science, on va valoriser l'onde au détriment de la particule. Parce que ce qui est ondulatoire, ça donne du sens, c'est l'énergie, c'est le mouvement, c'est ce qui nous permet de nous en sortir, c'est pas la statique, etc. Et donc tout ça va se transformer, va se traduire par un certain nombre de mouvements que nombre de gens moquent, mais qui en réalité sont la partie émergée, caricaturale, d'une transformation profonde de notre société, de ce que j'appelle le sol mythique de notre société, par exemple le mouvement New Age. On va parler d'énergie, nature, etc. etc. Ouais, sauf que, ça c'est dans un précédent livre, qui s'appelle Souci de soi, conscience du monde, je commence le livre en disant, si un individu se réveillait dans les années 2000, après s'être endormi dans les années 70, il se réveillerait, il dirait, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un groupe de hippies qui ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir sur la publicité, ils ont pris le pouvoir sur tout, puisque maintenant, pour pouvoir rendre désirable le fait d'aller au ski, par exemple, d'aller faire du ski, vous avez un type en lotus en train de faire ça, et derrière, la nature et la montagne, dans toutes ses propriétés, ou alors, cet individu irait dans un magasin, dans une épicerie, puis à un moment donné, dans l'épicerie, il regarderait, il y aurait écrit « C'est vraiment bon pour vous, et parce que c'est plein d'énergie et de fibres. » On dit « Tel yaourt est meilleur, parce qu'il y a plus d'énergie et de vitamines. » Pourtant, les vitamines, c'est pas spécialement de l'énergie, mais bon, non, c'est de l'énergie, les vitamines, pour tout le monde. Ben, quand on rentre dans une pièce aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est ce qui est incorporé, qui n'est pas réfléchi, qui va de soi, y compris pour moi, je ne le remets pas en cause. Je rentre dans la pièce, il y a une bonne énergie ici. Je vous assure qu'au 15e, 16e siècle, personne n'aurait compris même ce que ça pouvait vouloir dire. Qu'est-ce qui veut dire une bonne énergie dans cette... Là, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il y a une bonne énergie. Vibes. Ouais, ça circule. Ah oui, parce que c'est quand ça circule maintenant que c'est le bien. Pas de raison, hein, peut-être que ça circule pas, moi. Et on va avoir toute une métaphysique implicite qui va déterminer une morale elle-même implicite, où l'indigène, le loup, l'animal... va devenir une sorte d'idéal, jusque, par exemple, la notion de biodiversité. C'est intéressant, la notion de biodiversité. Parce qu'on nous dit, la biodiversité, c'est vraiment ce qu'il faut viser. On voit bien que quand on prononce le mot biodiversité, d'emblée, c'est le bien. C'est pas la peine de discuter, c'est juste le bien. Après, on peut discuter à l'intérieur du paradigme, mais on n'a pas le droit de discuter le paradigme. C'est ça le problème dans nos sociétés. Moi, je le discute, le paradigme. Ça ne veut pas dire que je suis contre la biodiversité, c'est plus subtil. Ça veut dire qu'en soi, la biodiversité, ce n'est pas un bien. C'est-à-dire que vous prenez un certain type d'écosystème, vous mettez trop de biodiversité, ça étouffe juste l'écosystème. C'est pour ça que dans les processus réellement naturels, il y a des incendies qui permettent à l'écosystème de respirer à nouveau. Moi, je ne dis pas ni que c'est bien ni que c'est pas bien. Je dis c'est étonnant et c'est étrange que le mot même de biodiversité, enfin c'est étrange, pas si étonnant que ça, parce que c'est devenu le sol mythique, en soi, signifie le bien. Alors, est-ce que je dis que c'est une mauvaise chose ? Non, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a plus besoin de biodiversité. Et comme je vous le disais au début, pour qu'un mythe fonctionne, il faut qu'il soit plausible. Or, puisqu'on a plus besoin de biodiversité, parce que c'est là où est le problème essentiel, mais le problème conjoncturel, on va en finir par en faire un point de foi, un point mythique, mais c'est nécessaire puisqu'on n'a pas accès au réel et en fait on ne sait pas ce que c'est que vraiment la biodiversité, si c'est bien, si c'est mal. Donc on le construit pour pouvoir en faire quelque chose qui nous oriente et qui nous oriente de façon relativement efficace et on a raison. Donc je suis pour la biodiversité, vous voyez ce que je veux dire ? C'est parce que le champ de plausibilité a évolué en fonction de ce qu'on croit savoir qui est fondé sur les méthodes qui nous permettent de savoir, à savoir la science, ce qu'on appelle la science. Je pense qu'on ne peut pas se passer de métaphysique. Parce qu'on ne peut pas se passer de mythe. mais que les mythes, contrairement à ce que disent la plupart de mes collègues, doivent être plausibles. Ça, ce que je vous dis là, au passage, ça remet en cause la plupart des théories de la sécularisation. Parce que la théorie de la sécularisation, les théories de base de la sécularisation, c'est de dire que la rationalité est en quelque sorte comme un rouleau compresseur qui progressivement finit par écraser les croyances et à la fin, on est dans un monde, enfin sur le modèle un peu d'Auguste Comte, mais aujourd'hui, la plupart, enfin, beaucoup de scientifiques y croient aussi de cette manière-là. Alors que, à mon sens, plus qu'un processus qu'on pourrait appeler purement de sécularisation, c'est-à-dire au moins de rationalisation, d'écrasement des croyances, on a assisté, enfin, c'est un mot qui a été un peu galvaudé, mais à une recomposition de la structure mythique. Et dans le moment de décalage entre les anciens mythes qui glissaient pour devenir, qui dégénéraient à l'état de fiction, mais qui résistaient quand même pour des raisons morales, politiques, tout ce que vous voulez, et qui se vidaient de leur contenu, on avait ce que les gens croyaient de plus en plus, vraiment, sans forcément en parler. Et au cœur de ça, cette idée justement de nature.
Si j'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel, j'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue.
Alors maintenant, le troisième point. Le troisième point, c'est la question du risque totalitaire, si vous voulez, du risque dogmatique. Maintenant que j'ai dit que j'ai critiqué la construction même du concept et comment est-ce qu'il avait glissé en situation de devenir le cœur de la nouvelle mythologie, et que, même si je critique cette mythologie, j'y souscris. Je souscris à la mythologie, c'est-à-dire je souscris à la scène et je souscris au décor naturel, mais je ne souscris pas à tous les scénarios. Par exemple, je ne souscrirai pas à un scénario, je prends le pire, je prends un scénario d'hygiénisme global sur le mode nazi, qui était fondé sur la même base naturaliste. Trouver une nature pure. Seulement, il ne faut pas se croire indemne, il ne faut pas se croire supérieur à ce qui s'est passé de ce point de vue-là. Parce que les réessentialisations totalitaires apparaissent plus vite qu'on pourrait croire, parce que justement, elles n'apparaissent pas parce qu'elles sont incorporées, qu'elles se traduisent par des sentiments, c'est-à-dire par de l'adhérence avant d'être de l'adhésion. Et qu'une fois qu'elles adhèrent au sens de l'adhérence, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes d'adhésion, les gens ne sont pas d'accord. On disait tout à l'heure avec Michel Miaille que j'avais un petit chapitre dans un livre sur la laïcité, je l'appelais du « oui bien sûr, mais quand même ». Le « oui bien sûr », c'est l'adhésion, c'est-à-dire les gens sont d'accord, ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela, etc., etc., etc. Puis moi je dis à mes étudiants, ce qu'il faut c'est trouver le « mais quand même ». Et donc pour trouver le « mais quand même », il faut y aller. Tac ! Il faut les piquer dans leur ego. Et là, à un moment donné, on se rend compte qu'ils vont vous dire quelque chose, c'est le « mais quand même », oui, mais quand même. Ah, vous le voyez avec l'islam, ça c'est « oui, bien sûr, mais quand même, je veux dire, ils sont quand même musulmans, quand même pas charriés ». Donc, moi, ma crainte aujourd'hui, c'est qu'une certaine forme d'adhérence mythologique, irréfléchie donc, parce que c'est de l'adhérence mythologique, à cette nature surnaturelle, vous l'avez compris, qui se dépasse elle-même, qui est devenue hyper-nature, plus que de la nature, que cette adhérence, elle se transforme, comme on peut le voir dans ce qu'on appelle la deep ecology, en anti-humanisme. Et c'est ce qu'on trouve à multitude d'égards. En même anti-industrialité, anti-technologie. Et c'est ce qu'on trouve effectivement dans cette idée de « untouched by man » dont j'ai parlé au début. Parce que ça a l'air de rien, Touch Balman, c'est juste pour dire ce vin, il est vraiment, en fait, elle voulait dire, ce vin, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, etc., etc. Sauf qu'il y a des gens, par exemple, je pense à Douglas Tompkins, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui est le cofondateur de la marque North Face, qui était l'homme qui avait le plus de terre sur la terre, qui avait acheté le plus de terre possible pour enlever toute trace d'humain, parce que c'était impur. Il voulait faire disparaître toute trace d'humain, parce que, on pourrait dire, l'humanité est inhumaine, si on entend l'humanité au sens d'être sympathique, avoir un peu d'humanité. Et donc on aboutit à des choses qui me semblent non seulement moralement dangereuse, mais y compris dangereuse par rapport à ce qu'on veut faire en pratique. Je pense à la question d'industrialisation. Et là, j'en viens à pain aux céréales. Il y avait un ami qui voulait que j'appelle mon livre « Pain aux céréales ». Je dis bon, pain aux céréales. Pourquoi ? Parce que pain aux céréales, ça va plus loin. Dans un sens, ça a l'air de rien, c'est juste un pain aux céréales sur la table, etc. Mais ce qui est intéressant dans la question du pain aux céréales, l'autre ne serait pas aux céréales, donc ça serait un pain immoral, quelque part. Bon, vous pouvez prendre du pain blanc, si vous voulez. Hein ? C'est pas seulement ça, c'est que le pain aux céréales, il est plus industrialisé que l'autre. Ça, je trouve ça très intéressant. Parce que si le pain aux céréales, ça devient le paradigme de notre mode, de nos modes d'action, ça veut dire que pour surnaturaliser la nature, pour lui donner l'apparence de cette nature qui finit par être la seule chose qui compte, à un certain niveau, on va peut-être plus polluer. C'est-à-dire qu'on va utiliser plus d'énergie. C'est-à-dire qu'on va faire très exactement le contraire de ce qu'est supposé signifier ce pain aux céréales. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire la différence que faisait Baudrillard, différencier ce qui fait signe et ce qui fait sens. C'est-à-dire qu'on va faire de plus en plus signe de la nature en se moquant de ce qui fait sens, c'est-à-dire de ce qui ferait réellement sens pour nous. Et le paradigme du pain aux céréales, il est intéressant parce que ça veut dire que c'est aussi la question du parc naturel. On va construire de la nature en polluant. Et on va le faire massivement. C'est-à-dire qu'on peut même construire de la nature chez des individus. Par exemple, on va mettre en scène des cultures dites premières, qui n'ont jamais été, en créant, je ne sais pas, en créant à coup d'argent des hyper-bédouins qui, dans le désert de Wadi Rum en Jordanie, vont vous faire visiter je ne sais quoi et vous faire boire du thé à la menthe à l'ombre d'une dune. Puis quand ils rentrent chez eux, alors que là, ils se sont habillés en bédouins du 7e siècle, puis quand ils rentrent chez eux, enfin, ils sont tranquilles avec tous ces touristes, ils peuvent remettre la radio, regarder la télé, et demain, il va falloir encore faire comme si. Et donc, on va avoir des systèmes de mise en scène de la nature elle-même, à travers le tourisme, à travers toute une série de choses. La publicité elle-même va s'en emparer. Elle va se surnaturaliser. Les modalités même du contrôle social vont être des modalités qui vont utiliser ce langage qui fait de plus en plus signe parce qu'il est payant, mais en lui vidant de plus en plus de son contenu signifiant. Ce qui est un risque dans toute transformation mythique. C'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de critiquer ce à quoi globalement l'on souscrit. C'est-à-dire que moi je critique le signe, je ne critique pas le signifiant, parce que j'ai toujours peur que des scénarios puissent se mettre en place et que sous prétexte que ces scénarios disent que c'est vert, que c'est sympa, que c'est pur, que c'est tout ce que vous voulez, on n'ait même pas plus le droit d'y réfléchir parce que ça irait d'emblée de soi, ça serait une évidence. Ça serait la preuve en elle-même. Et je finirai, et là ça sera ma conclusion, sur ce point, par dire que ce que j'ai essayé de vous dire dans ces trois points, moi me conduisent à réfléchir, peut-être de façon un peu plus approfondie que ce qui avait pu être ma réflexion sur ce sujet jadis, sur ce qu'est véritablement l'humain. Et quand vous lisez un certain nombre de paléoanthropologues, et je crois qu'ils sont assez d'accord là-dessus, beaucoup sont d'accord là-dessus, une des caractéristiques de l'humain, c'est de ne pas être naturellement, si on entend naturel comme étant la condition biologique en quelque sorte, sans rien, viable. De ne pas être viable, c'est ce que certains appellent le singe nu. Alors il y a des conditions effectivement climatiques, je ne vais pas revenir sur tout le processus que les paléo-anthropologues appellent le processus d'hominisation. Mais moi ce que je retiens, et c'est cette petite phrase qui prend son sens si vous avez écouté ce que j'ai dit, c'est que l'homme est un animal biologiquement artificiel. Et je tiens au mot biologique. C'est-à-dire que bios, pour maintenir sa vie, il ne peut pas se passer de l'artifice à la base. Ça veut dire que ce qui est le plus naturel chez lui, c'est la construction d'artifices positifs. D'ailleurs, l'art, c'est ça, l'art, l'artisanat, etc. Toutes ces choses-là. Et lorsque on remet en cause l'industrie Par exemple, l'industrie du 19e siècle, du 20e siècle, du début du 20e siècle, en disant c'est extrêmement polluant, on a fait un certain nombre de choses qu'on ne devrait plus faire. Par exemple, l'Europe, elle est née aussi de la déforestation. Déforestation, comme l'a montré même Weber, qui était liée à la rationalisation du travail à l'intérieur des premières grandes unités de production pré-industrielles que sont les monastères. Et qui a fait quoi ? Qui a défriché l'ensemble de l'Europe. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la même chose avec la forêt amazonienne, parce qu'on ne pourrait plus respirer. C'est clair. D'un autre côté, quand on réfléchit à ce qui a pu se passer, et qu'on dit, bon, l'industrie, au 19e siècle, au 20e siècle, on a vraiment, c'était l'horreur, donc il faut changer, il faut prendre soin de la nature, et j'en suis d'accord. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on croit. C'est parce qu'on n'avait pas un niveau d'artifice, c'est-à-dire de technologie, suffisante pour ne pas être en prise, encore trop directe, avec la nature, justement, dans ses lois brutes et brutales. C'est-à-dire que l'industrie, première version, c'est encore une industrie qui ne peut pas se permettre le soin que nous voudrions lui accorder aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est par plus d'industrie qu'on arrive à construire du soin. Parce que si on est à le niveau au paléolithique, on ne prend pas soin de la nature, je l'ai dit plusieurs reprises. Sauf que l'impact qu'on a sur la nature est tellement égal à zéro, est tellement faible, tellement fragile, tellement infime, que ça ne fait rien. Alors qu'effectivement, dans le monde industriel, on est encore trop primitif du point de vue industriel, j'allais dire, pour arriver à dégager suffisamment de substances, arriver à créer des stations d'épuration, si vous voulez, parce qu'on n'est pas encore au deuxième niveau. Et en même temps, on a un impact qui est des milliers de fois plus fort que ce qu'on avait, même des centaines de milliers de fois plus fort que ce qu'on avait au paléolithique. Mais la notion même de soin, ce n'est pas une notion naturelle, c'est une notion artificielle. Du moins, l'extension qu'elle prend aujourd'hui, au-delà du simple soin pour sa progéniture dans des conditions particulières liées à l'évolution de la reproduction, etc. Et donc, ça veut dire que, pour tout dire, je ne veux même pas opposer nature et artifice. Je veux seulement dire que l'artificialité, c'est le sens de la nature humaine dans ce qu'elle peut avoir de plus élevé, mais si elle ne le rejette pas, si elle ne le remet pas en cause. Si elle l'oriente, justement, dans un sens qui est celui qui avait été progressivement défini dans la modernité, parce que c'est plus plausible, parce qu'effectivement c'est mieux, parce qu'effectivement on vit sur une planète finie, et que donc il faut qu'il y ait une économie, et que donc notre mythologie, notre soin mythique, doit être fondée là-dessus. Donc je dirais que finalement, si j'ai écrit ce livre, c'est pour prévenir les dérives qui se veulent surnaturalistes, c'est-à-dire d'une deep écologie qui voudrait ne plus être humaniste parce que l'homme serait en soi le mal et qui attribuerait une sorte de culpabilité, et qu'on trouve aujourd'hui dans les discours, absolue, c'est-à-dire une culpabilité irréfragable, comme on dit en droit, et irréversible à l'homme, alors que le sens même de cette culpabilité est un construit de notre artificialité, c'est-à-dire de ce qu'il y a de meilleur dans notre nature.
Voilà.
Sur Radio FM+, studio de Montpellier, nous venons de suivre une réflexion philosophique sur le débat autour de la nature, avec ce paradoxe qui voudrait que seule l'intervention humaine, scientifique, industrielle, puisse sauver la nature. Le philosophe Raphaël Liogier était l'invité de la faculté de théologie protestante de Montpellier à l'occasion de sa séance de rentrée. Au revoir et à bientôt sur FM+, dans un prochain parcours.
Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Je me souviens d'avoir dit aux hommes, pour chaque fille, une colline de fleurs. Et puis j'ai planté des arbres à pommes où tout le monde a mordu de bon cœur. Et partout, partout des rivières profondes. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Soudain, toute la ville s'arrête, il paraît que les fleuves ont grossi.